alone. Pou-pou-pi-dou.
Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambil.
Bienvenue dans votre émission Page à Page. Nous nous retrouvons en ce vendredi 20 mars sur les ondes de Radio Occitanie. Alors aujourd'hui, je reçois Frédéric Martin. Bonjour Frédéric.
Bonjour Claire.
Avec qui nous allons parler de son nouveau roman intitulé « Sauf quand on les aime », publié aux éditions Belfond. Mais tout d'abord, et comme à l'accoutumée, la page info. Samedi 20...
Page à Page, Claire Ambil.
Pou pou pitou.
Merci à Esther pour la petite annonce. Alors, samedi 28 mars à 15h, à la librairie Gibert, 3 rue du Thor à Toulouse, une rencontre gourmande avec Serge Guérin et son livre « Éloge politique du chocolat » publié chez Le Mieux Éditeur, et avec une dégustation avec Éthicable, une entreprise gersoise de commerce équitable, vous l'aviez compris. Donc, une après-midi gourmande. Alors, samedi 28 mars et dimanche 29 mars, et c'est de 14h à 17h, et c'est à la médiathèque José Cabanis, au deuxième étage, au pôle littérature. Vous pouvez entendre un poème dans une cabine semblable à un photomaton qui donne à écouter des poèmes et les imprime instantanément. Alors, c'est conçu par la compagnie lyonnaise Chiloé, et ce dispositif original vous invite à donc écouter de la poésie sans voir celle qui l'a dit et sans être vu des diseuses qui sont en l'occurrence Isabelle Paquet et Marie-Laure Millet. L'entrée est libre. Et puis, lundi 30 mars à 17h30 à la librairie Priva, 14 rue des Arts à Toulouse, une rencontre avec Pascal Dessin et son nouveau roman « Le chemin s'arrêtera là » aux éditions Rivage, et une lecture faite par Boris Terral. Et puis, la dernière information de ce jour, mercredi 1er avril, et ce ne sera pas un poisson, à 20h30 à la Boulanguette 1 boulevard Eugène Montel à Tournefeuille, le café littéraire de Tournefeuille vous invite à son rendez-vous mensuel, et Nana d'Émile Zola sera à l'honneur ce soir-là.
Page à page, Claire Ambil.
Pou pou pitou.
Merci à Esther qui fait la technique de cette émission aujourd'hui. Alors, je me tourne vers mon invité. Frédéric, tu étais venu nous présenter ton roman précédent à page qui s'intitulait Le vase où meurt cette verveine, aux éditions Belfond également, d'ailleurs comme celui d'aujourd'hui. Mm-hmm. Où il était question d'un couple âgé et de leur amour très grand. On va dire.
Très long, en tout cas, dans le
voilà.
Temps.
Voilà. Et d'ailleurs, une lecture musicale avait été, a été adaptée, d'ailleurs, à ce roman, avec notamment Marie Cigale à la
oui.
musique.
En fait, j'ai fait l'adaptation et je porte moi-même sur scène
oui,
l'adaptation de ce roman sous une forme de lettre musicale avec Roger Bourlan pour me donner la réplique,
voilà,
en voix off.
Le comédien.
C'est lui qui joue le rôle de Joseph. Mm-hmm. Et Marie Cigale m'accompagne de la voix et du piano sur ses propres compositions.
Mm. Ah bah, j'ai testé, c'est vraiment, on passe à un très très beau moment.
Oui, tu étais venue à Saint-Jean.
Ah oui, voir. Oui, c'était un grand, grand moment. C'est presque, enfin c'est du théâtre, c'est vraiment...
C'est une forme hybride,
ah, oui,
un comédien,
beaucoup,
une lectrice, une musicienne.
Ouais, j'ai beaucoup, une forme hybride. Et puis tous les trois, avec autant de talent les uns que les autres.
Merci.
Voilà, donc ça fait une très belle, un très beau moment. Alors, sauf quand on les aime, aux éditions Belfond. Donc, c'est un roman qui m'a évidemment beaucoup plu. Et là, il est question de jeunesse, on va le voir. Ce n'est plus les personnes, un couple âgé, c'est quatre jeunes gens.
Oui, en même temps, c'est toujours l'être humain pris
oui,
à un moment
voilà.
ou à un autre de sa vie.
De sa vie.
Et dans ces espaces où la fragilité, ces moments de la vie où la fragilité est plus marquée qu'à d'autres.
Oui, sûrement. Et puis une couverture, alors qui illustre bien, je trouve, le roman. On y voit quatre fenêtres avec quatre ouvertes, avec quatre personnes qui, eh bien, qui sont à ces fenêtres et puis qui s'interpellent, enfin qui se regardent, qu'on imagine qu'ils se parlent. Et c'est un peu les quatre personnages du roman. On va le voir. On y retrouve aussi, eh bien, ta très belle écriture, Frédéric. C'est toujours un plaisir de lire tes livres parce que voilà, ça coule, c'est beau, c'est à la fois poétique par moment, imagé. Toujours très juste, donc ça fait du bien.
Merci.
Et puis donc c'est un chassé-croisé de vie, de destin, de failles et puis d'amour aussi. Ce roman, on va pas en dévoiler trop les tenants et les aboutissants pour laisser aux auditeurs le soin de se plonger dans la lecture. Alors l'histoire se passe à Toulouse majoritairement, on va dire.
Oui.
Avec une excursion quand même en Tunisie et puis en Espagne.
Voilà, un peu d'échapper sur le reste du monde, mais j'avais envie pour la première fois de situer ce roman, qui est un roman urbain, je dirais, par rapport au précédent, plus un roman tourné autour de la nature. Je voulais, pour la première fois, utiliser la ville que je connais le mieux, parce que c'est là où j'ai le plus longtemps vécu, comme centre de l'action. Donc c'est quand même un livre qui se passe à Toulouse.
Voilà, à Toulouse, donc on reconnaît beaucoup d'endroits, la place Saint-Pierre, forcément, parce que les étudiants vont faire la fête
chez Tonton,
là-bas.
Par exemple.
Et oui, alors il est divisé en trois parties, ce roman. Donc la première partie, il y a quelques phrases de Mansfield Tia en prélude.
Mansfield T.Y.A. qui est un groupe musical, deux femmes, une à la voix et l'autre au violon. Un groupe français rock, assez, avec un univers très, très poétique et très particulier.
Et donc ça c'est la première partie. Alors on va raconter un peu en substance. Donc c'est dans un train qui file sur Toulouse, une jeune fille noire se fait harceler verbalement et grossièrement par un homme alcoolisé et personne n'ose intervenir dans le wagon. Seule une femme s'interposer de manière très calme en parlant avec l'homme, en lui posant des questions sur lui, sur sa vie, en s'intéressant à lui. Finalement, elle arrive à le calmer, et forcément dans le wagon c'est le grand soulagement, et là pour la jeune fille aussi qui était harcelée. Donc c'est un peu c'est un fait divers, enfin je veux dire c'est malheureusement des choses qui arrivent très souvent.
Très souvent par rapport au nombre de trains qu'on prend.
Oui, peut-être pas, mais enfin qui arrive souvent, on va dire.
C'est-à-dire que la presse s'en fait l'écho, donc ça donne l'impression que nos trains...
Que ça arrive souvent,
ça arrive souvent, mais oui, ça arrive parfois.
Ça peut arriver.
Et donc là, c'était un point de départ qui permet à deux des quatre personnages de se rencontrer, Claire et
voilà.
Tisha,
oui,
en partant sur la violence ordinaire dont les femmes, et les femmes jeunes plus précisément, sont assez souvent la cible.
Tout à fait. Alors l'homme s'appelle, donc la dame qui s'interpose, la femme qui s'interpose, donc on apprend que l'homme s'appelle Daoud, et la jeune fille, c'est Tisha. Et donc dans ce même wagon, il y a Claire, justement, tu viens de le dire, une jeune fille qui rentre à Toulouse dans l'appartement où qu'elle occupe avec donc Kader et Juliette, ses amis et colocataires. Et donc elle s'en veut beaucoup de ne pas avoir réagi au moment de
l'agression.
De l'agression. Et après, donc, elle va proposer à Tisha de l'héberger pendant quelques jours, donc, dans leur appartement, à tous les trois. Ah, et donc, tous les quatre.
Qui va vite devenir un appartement à tous les quatre.
Tous les quatre.
Une colocation qu'ils occupent du côté de Jolimont.
Donc, on voit, le coin de Jolimont.
Voilà, on visite la gare, on visite Jolimont.
Oui, aussi, oui. Et donc, le soir, tous les quatre, justement, évoquent cette réaction de cette dame dans le train. Et puis, chacun se demande comment elle a réussi à calmer cet homme. Et Juliette, donc, un des personnages, se demande si, je cite, elle s'était dit comme une évidence qu'il faut aimer les autres plutôt qu'en avoir peur. Est-ce que cette dame, est-ce que cette femme, que l'on ne connaît pas, mais qu'on pourrait connaître...
Peut-être, je ne sais
peut-être,
pas.
Peut-être. Est-ce qu'elle s'est dit ça comme une évidence, qu'il faut aimer les autres plutôt qu'en avoir peur pour pouvoir...
C'est la supposition que fait Juliette.
Oui. Et qui est une bonne supposition, à mon avis.
Oui, qui doit être probablement l'axe de vie de cette femme-là, même si... mise en face de faits d'agression, de brutalité. On n'est pas en train de faire de la philosophie, on est dans ajuster son comportement et trouver la meilleure façon pour que les choses se passent au mieux, trouver une solution au problème qui se présente. Mais ça doit être probablement, en tout cas c'est la supposition que fait Juliette et moi je la trouve assez juste, que probablement cette femme se dit que oui, plutôt qu'avoir peur des gens, il faudrait les aimer. Ce qui indique sans doute qu'elle a elle-même forcément peur des gens, mais qu'elle a décidé de transformer cette peur-là en autre chose.
En autre chose. Et puis, elle dit, Juliette aussi, de se demander, devant quelqu'un d'abîmé par la vie, je cite, « Ce moment où tu te dis, c'est lui, c'est elle, mais ça pourrait être moi. »
Oui, c'est parfois, enfin, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, Claire, mais on se retrouve dans un lieu public et tout d'un coup, c'est fugace, mais il y a une sorte de proximité immédiate qui se fait avec les gens de l'entourage et la moindre ride, la moindre imperfection devient touchante au lieu d'être repoussante. C'est-à-dire tout ce qui pourrait être de l'ordre de l'humain concret.
Oui, parce qu'on est tous, on est tous humains.
Oui, mais sentir ça, c'est pas donné en permanence.
C'est vrai.
C'est comme une sorte de grâce qui est donnée de sentir que voilà cette proximité, ce lien qui fait qu'on est, oui, c'est lui, mais ça pourrait être moi.
Ah oui,
ça pourrait être ma vie,
oui,
en fait.
Oui, bah oui, oui, tout à fait. Alors, Juliette, elle écrit, mais elle préfère dire qu'elle prend des notes. J'ai trouvé que c'était amusant comme, alors elle dit d'ailleurs, ce qui ne peut être dit, il faut bien quelqu'un pour l'écrire, n'est-ce pas? Elle se le demande. Et puis, à un moment, elle écrit dans son cahier, d'ailleurs, quelque chose que j'ai bien aimé. Elle dit, l'instant serait une aventure, une découverte. J'aime beaucoup cette notion de découverte, d'aventure, d'inconnu, quoi, finalement. Et donc, Juliette est amoureuse d'Ethan. Alors, elle dit d'ailleurs de leur relation. Et ce qui était une vague relation amicale a fini par s'empourprer sous l'effet de l'ambiguïté. J'ai trouvé que c'était une phrase très jolie pour décrire cette évolution de relation entre deux.
Et oui, elle dit aussi un peu plus loin qu'elle ne sait pas si elle l'aime vraiment, mais elle voulait tellement en être aimée qu'elle avait fini par se croire amoureuse.
Oui, oui, oui. Des fois, ça fait un peu ça. Oui. Ça peut faire un peu ça, c'est vrai.
Cette minute est la minute offerte par Claire. Si vous avez quelque chose d'intime, téléphonez-nous.
Alors, ses parents à Juliette sont morts. Les parents de Juliette sont morts et elle travaille dans une maison de retraite. Alors, il y a un passage amusant parce qu'elle travaille dans une maison de retraite avec des personnages qui sont les deux sœurs centenaires qui n'arrêtent pas de se disputer. J'ai trouvé ce passage fort amusant.
Oui, elles se sont jamais remises des problèmes d'héritage qui ont eu lieu à la mort de leur mère, mais enfin, elles ont quand même bientôt 100 ans.
Ah oui, oui, donc elles se crêpent le chignon.
Elles sont dans une haine étourdissante.
Ah oui, 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 voilà. Et puis, avant, elle avait travaillé en CLAE, ces centres de loisirs en école primaire, mais elle avait été vite désabusée par la violence des enfants et puis l'inertie de l'équipe et de la direction. Alors, est-ce que ce sont des choses qui sont réelles ou pas? Nous ne débattrons pas de ce sujet ici.
On peut en débattre.
Mais non, on parle du livre. Mais enfin, voilà, il y a des petits clins d'œil comme ça dans tout le roman. Des petites choses qui sont dites.
C'est un livre qui est contemporain, qui se passe dans une époque contemporaine. Actuelle, et qui donc touche forcément à l'organisation sociétale, je dirais, ou en tout cas des problèmes de société contemporaine.
Tout à fait. Alors, elle rêve aussi de réunir justement enfants et vieillards prenant soin des uns des autres et se mobilisant pour l'autre plutôt que contre lui. Là aussi, c'est une belle philosophie.
C'est-à-dire que les quatre personnages, et même le cinquième dont on n'a pas encore parlé, personnages clés de ce roman ont ceci en commun, qu'ils sont à la fois en quête d'eux-mêmes, mais qu'ils ont toujours le souci de l'autre.
Oui,
quête de soi et souci de l'autre.
Oui.
Et c'est vraiment la couleur de toute l'histoire qui se passe entre ces cinq-là.
Ce sont des gens bien.
Non, ils ont aussi leurs défauts.
Oui, oui, mais enfin, ils ont quand même une bonne mentalité, je dirais, une bonne approche.
Ils ont une aspiration.
Oui,
Oui, ils ont une belle aspiration à vivre ensemble, au vivre ensemble.
Alors Kader, justement, le seul garçon, enfin non, il y a Ethan aussi, puis le voisin, mais enfin bon, Kader qui est vraiment dans l'appartement avec, avec Claire et Juliette. Alors Kader, lui, il est amoureux de Juliette et il a pour copain Ethan, justement, le fameux Ethan. Et puis donc, il travaille sur un chantier après avoir fait des études plutôt sociales à Bordeaux. Et donc, il vit assez mal, évidemment, le fait que Juliette soit amoureuse d'Ethan et pas de lui, alors qu'il est très attentionné avec lui. C'est, ah là là,
hein, c'est un très beau personnage.
Oui, Claire. Oui. Et puis, il y a Claire. Alors, Claire qui est violoncelliste et qui vit une belle histoire, eh bien, avec Tisha, la nouvelle arrivée dans l'appartement. Et puis, il y a aussi leur voisin de palier, Monsieur Bréel, ce vieil homme solitaire, excentrique et puis secrètement amoureux de Claire. Alors elle dit d'ailleurs de lui, il émane de sa personne une touchante bienveillance et ce voisin atypique entre clown et poète. C'est vrai qu'il est... moi je l'adore ce voisin, j'aimerais bien avoir un voisin comme ça.
Ça c'est le lien intergénérationnel que je mets dans mes histoires et qu'on trouve quand même un peu dans toute... Enfin, c'est vraiment avec ce livre-là que ça m'est apparu, à quel point c'était un lien intergénérationnel. Le lien intergénérationnel que je mettais dans toutes mes histoires sans même...
T'en rendre compte.
Non, sans même m'en rendre compte, voilà. Donc, Monsieur Bréel, au début, ça devait être un voisin. Je savais pourquoi il était là. Enfin, il y avait une scène en particulier, la scène de l'anniversaire. Cette scène-là, dès le début, m'est apparue. Mais pour moi, c'était un personnage secondaire, au même titre qu'Ethan. C'était un personnage qui restait un peu à la lisière. Et puis, il s'est imposé comme un personnage principal.
Il s'est étoffé. Hein, oui, il n'a
pas supporté que de rester lui couper un peu, le sifflet.
Oui, voilà. Ah ben oui, hein, parce qu'il est... Voilà, d'ailleurs, quand Claire l'invite à pendre la crémaillère, il répond « J'apporte la corde ». Voilà, c'est tout à fait son genre de réponse, son genre d'humour. Et puis, donc, Ethan, on va en parler avec ses projets, son projet de participer à une chora au Népal. Alors, c'est une déambulation spirituelle, un parcours initiatique. Il dit d'ailleurs, il explique à Juliette, une chora qui t'oblige à revisiter la notion de réussite et d'échec. Donc il est très impliqué dans ce...
Bah, il est en quête lui aussi.
Lui, voilà.
Il est en quête...
De spiritualité,
d'apaisement.
Ethan,
c'est un jeune homme un peu plus âgé que les autres, il a une trentaine d'années, mais c'est un jeune homme qui supporte très mal le poids de la pression sociale, des contraintes multiformes dans lesquelles on est enfermé.
Même sentimental.
Mais c'est pas ça le plus probant chez lui. Ce qui est le plus dur pour lui, c'est de vivre en société. C'est-à-dire de vivre en société sous la forme que la société a prise et qui ne laisse plus aucune liberté. Qui non seulement ne laisse plus aucune liberté individuelle, mais qui en plus écrase de plus en plus par son poids chacun des individus. D'ailleurs, on le voit, on a de plus en plus de gens qui ne peuvent plus supporter cette pression et qui cèdent sous cette pression d'une manière ou d'une autre.
Oui, c'est vrai.
Et lui, voilà, c'est...
Lui, voilà, il cherche
Il représente ça, tu vois.
Alors, et puis, il y a Tisha, donc, la jeune fille du train, rencontrée dans le train. Et donc, avec, dit Claire, ses cheveux qui font de la musique, parce qu'elle a des longues tresses, et au bout de ses tresses, elle a des perles. Et donc, ça fait de la musique. J'ai bien aimé cette image des cheveux qui font de la musique. Alors, au fil de ce roman, eh bien, il y a les réflexions des personnages, leur vie, leurs doutes, leurs convictions, enfin, tout ce qui se passe dans leur vie. Et il y a, par exemple, cette remarque de Claire, qui parle de Kader qui est jaloux d'Ethan par rapport à Juliette. Souffrir rend sourd et souvent mauvais. Ça, je pense que c'est une remarque très juste.
Oui, la souffrance.
Sur la souffrance engendre des choses négatives.
Oui, la souffrance est source effectivement d'actes posés ou de paroles dites en dépit du bon sens. En fait, à travers ces quatre personnages, ce que je voulais, c'était vraiment dresser le portrait d'une jeunesse contemporaine, montrer quelles sont ses interrogations, quelles sont ses difficultés pour s'insérer dans une société qui à la fois l'envie et en même temps a de plus en plus de mal à lui faire de la place.
De la place, tout à fait.
Parce qu'on dit souvent du mal des jeunes d'aujourd'hui. Or, les jeunes d'aujourd'hui ont la fonction qu'ont eu les jeunes d'hier, c'est-à-dire nous, qui est de faire avancer les choses et de, so- s'inscrire en faux par rapport aux générations précédentes, parce que si ce n'est que pour répéter ce qu'ont fait les gens anciens, avant,
oui, voilà, les, oui,
il n'y a pas d'évolution possible. Or, qui dit pas d'évolution dit la mort. Oui. Une société qui n'évolue pas est une société qui meurt.
C'est vrai. Alors, il y a aussi des moments drôles, comme par exemple quand Isha propose justement à Monsieur Briel, le voisin, de lui faire un space cake.
Il est tenté d'ailleurs.
Et il est tenté, hein, ouais, le voisin. Oui, il est tenté. Il est tenté, Monsieur Briel.
Rien ne dit d'ailleurs qu'il ne finira pas par essayer.
Ah ben oui, pourquoi pas, tout à fait. Et puis il y a aussi quand de la sagesse aussi quand Isha dit par exemple à Claire, tu ne m'appartiens pas, alors je ne peux pas te perdre. C'est vrai.
Elles ont un rapport amoureux très différent, par exemple, de la manière dont Juliette ou même Kader envisage l'amour. Elles ont une manière très différente, et surtout Isha, de considérer la fidélité, l'affection, le lien d'attachement. Elles amènent une autre perspective sur le lien amoureux.
Tout à fait. Et puis il y a aussi elle dit aussi d'ailleurs Isha à Claire, tu es seule à pouvoir décider ce qui est bon pour toi. Et ça
on est responsable
de soi-même, tout à fait. Alors la deuxième partie du roman est en prélude, il y a les paroles de la chanson De ceux du collectif Fauve. Alors Juliette a une clairvoyance déçue vis-à-vis d'Ethan et elle dit cette phrase qui moi m'a beaucoup marqué, c'est un vagabond, pas un aventurier. C'est vrai que des fois on peut confondre, hein.
Souvent.
Entre les vagabonds et les aventuriers. Et c'est pas du tout pareil. C'est vrai que la nuance est capitale, je dirais.
Et puis, il y a aussi cet aspect dans l'amour où ce qui nous a attirés vers l'autre finit par être ce qu'on lui reproche.
C'est vrai, j'ai
remarqué. Très souvent, il y a ce mouvement de retournement.
Oui, c'est tout à fait.
Parce que si on s'attache à un aventurier ou à un vagabond, on peut pas s'attendre à ce qu'il reste à la maison.
Oui, c'est vrai. Donc nous sommes un peu fautives, nous les femmes, peut-être à vouloir des choses qui apprennent.
Je parle pas des femmes.
On en veut plus.
Le lien amoureux ne concerne pas que les femmes.
Ouais, mais je pense que quand même c'est plus majoritairement les femmes qui ont cette vision que les hommes.
Je ne crois pas ça.
Écoute. Et puis il y a la discussion donc entre Kader et puis son chef Sey sur la Tunisie. Et la révolution que Kader a vécue, parce que lui, il faisait ses études à Bordeaux, donc il vivait cette révolution en Tunisie par l'intermédiaire de son cousin Farid, avec l'avenue Bourguiba, etc. Et donc, il dit d'ailleurs, la révolution, il dit une très belle phrase, ce mot, révolution, perclus de rhumatisme dans toute l'Europe, devenait un terme neuf dans sa bouche. Ça a vraiment été important, donc il y a un clin d'œil, voilà, à cette révolution de 2011 de la Tunisie.
Bon, c'est un petit peu plus qu'un clin d'œil, puisque une partie de l'histoire se passera en Tunisie.
Tout à fait.
C'est un peu plus qu'un petit clin d'œil, puisque j'ai quand même suivi ces événements de près et de l'intérieur.
Tout à fait.
Voilà, pour des raisons
personnelles,
peu importe.
Tout à fait.
C'est vrai que les fois où je suis allée en Tunisie après la Révolution et où on leur disait que pour nous la Révolution c'était 1789, ils me regardaient.
Oui.
Alors que pour eux c'est quelque chose de vivant, tout de suite. Et ils ne pouvaient pas imaginer qu'il y ait des gens pour qui la Révolution ça datait déjà de quelques siècles.
Tout à fait. Que personnellement, enfin, nous n'avons pas connu, hein, voilà, parce que 2011, c'est vrai que c'est plus proche de nous, hein. Et puis il y a l'allusion aussi au tueur au scooter d'il y a 3 ans à Toulouse, et cette phrase, enfin plutôt cette question terrible, et si chacun a bien retenu le nom de l'assassin, qui se rappelle celui de la fillette? C'est vrai que c'est une question qui est terrible, finalement.
Oui, puis je vois que malheureusement elle continue de trouver sa résonance tous les jours dans l'actualité.
Tout à fait. Voilà. Alors, il y a un clin d'œil plus joyeux, celui-là, avec l'émission de radio Pas plus haut que le bord, enregistrée donc en public au bar Au Bohème à Toulouse, et à laquelle d'ailleurs tu as déjà participé, Frédéric.
Oui, je suis une des chroniqueuses.
Voilà.
Je suis Santa Maria de las Pacotillas.
Voilà.
Qui amène la parole.
Ton nom de radio.
Voilà, qui amène la parole de Dieu dans une émission de gaucho.
Ah oui, alors ça doit être quelque chose.
Et donc.
On commente l'actualité sous couvert donc de conneries, je cite, hein,
oui.
dans le.
Et donc.
Dans le
dans le portrait que je voulais faire de Toulouse, enfin, dans, oui, le portrait que je voulais dresser de cette ville, c'était amusant de lancer ce petit clin d'œil à une partie de la vie nocturne que j'ai découvert grâce à cette joyeuse équipe de chroniqueurs de l'émission.
Oui, ça a l'air haut en couleur.
Oui, c'est haut en couleur.
Et puis il y a aussi, on va un petit peu aussi dans la montagne noire dans ce roman avec l'abbaye de Villelongue et sa chapelle en ruine où Juliette dit d'ailleurs avec cette sérénité et ce chant de silence. Et puis avec un pique-nique aussi, et puis le soir au bord du lac Saint-Féréol où il est dit le clapotis d'une eau couturée d'étoiles. C'est poétique, oui. Je trouve. C'est un peu de calme dans la tempête, on va dire, avant la tempête ou voilà.
Un peu de nature.
Voilà, un peu de nature revigorante. Voilà. Et puis donc après il y a bien sûr la troisième partie du livre avec en prélude quelques phrases extraites de la chanson de Stéphane Escher. Tu ne me dois rien, d'ailleurs, des paroles que je n'ignorais, qui sont de l'écrivain Philippe Djian.
Bah c'est un couple. Philippe Djian et Stéphane Escher, c'est un couple de travail.
Djian
a écrit énormément des chansons de Stéphane Escher.
D'accord. Donc voilà la troisième partie dont on va laisser aux auditeurs le soin de découvrir à la lecture de ce roman, voilà toute l'ampleur de ce beau roman, à la fois grave, mais à la fois plein d'espoir.
Oui.
Voilà, c'est ça qui est important.
Voilà, laisser la place à de l'espoir et à d'autres solutions que celles que les événements racontés dans ce roman pourraient installer comme une punition définitive, un destin dont on ne pourrait pas s'emparer pour le transformer.
Et pour terminer donc cette émission, se répéter qu'on a tout à craindre des gens et des jours et des gens, sauf quand on les aime. C'est une phrase qui donne tout son sens au titre de ce roman, sauf quand on les aime. L'amour est à quelque chose de capital. Frédéric.
S'il n'y a pas d'amour, il n'y a plus de lien possible.
Il n'y a plus de vie peut-être aussi.
Il n'y a pas de possibilité de cohabitation, tout simplement.
Alors j'imagine que ce roman était important pour toi à écrire, à publier.
Oui, enfin comme mes romans précédents.
Oui, mais bon, peut-être celui-ci, cette jeunesse.
Celui-ci s'appuyait sur 20 ans d'observation, sur une jeunesse que j'ai vue d'abord naître. Grandir avec ses rêves et ses espoirs pour être confronté au mur de la réalité et se le prendre quand même en pleine gueule, hein, on va le dire un peu comme eux. Il y a des mots qu'il faut savoir utiliser. Donc oui, j'avais vraiment envie, dans ce moment où j'ai entendu dire tout et n'importe quoi sur la jeunesse, j'avais vraiment envie de la donner à voir d'une autre manière.
J'imagine que tu as d'autres projets, donc un livre, je crois, de...
J'ai un recueil de nouvelles qui paraîtra chez Belfond début 2016 qui est un recueil d'anticipation sociale, de politique fiction.
Donc l'occasion de se revoir sur Radio Occitanie dans Page à Page, Frédéric.
Tout à fait, Claire.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
Pour ta fidélité, d'être venu à Page à Page et pour ce roman Sauf quand on les aime aux éditions Belfond. On se retrouve vendredi 10 avril à 15h toujours sur Radio Occitanie en direct. Et n'oubliez pas ce soir à 23h30 la rediffusion de cette émission avec Frédéric Martin et son roman Sauf quand on les aime. Et on se quitte avec la chanson de Fauve intitulée De ceux et qui illustre parfaitement ce roman. Merci Frédéric.
Merci.
Adiciat.
Nous sommes de ceux qu'on ne remarque pas, des fantômes, des transparents, des moyens. Nous sommes de ceux qui ne rentrent pas en ligne de compte. Nous sommes de ceux qu'on choisit par défaut. Nous sommes de ceux qui ont la peau terne, les traits tirés et le regard éteint, des visages pâles, des teints gris. Nous sommes de ceux qui se délavent de jour en jour. Nous sommes de ceux qui ont du mal à s'entendre penser. Nous sommes de ceux qui se maîtrisent difficilement. Nous sommes de ceux qui mettent mal à l'aise en public. Nous sommes de ceux qui dérapent dans les escaliers des bibliothèques. Nous sommes de ceux qui dansent de façon embarrassante. We'll be right back. sommes de ceux qui font l'amour en deux temps. Nous sommes de ceux qui s'y prennent à l'envers avec les autres. Nous sommes de ceux sur lesquels on parie jamais. Nous sommes de ceux qui savent plus raisonner de façon logique. Nous sommes de ceux qui ont tout fait comme il faut, mais qui arrivent pas à des ratés modernes, des semi-défaites, des victoires sans panache. Nous sommes de ceux qui tiennent pas la pression. Nous sommes de ceux qui se font balayer à répétition. Nous sommes de ceux qui se font...